Ça te fait plus marrer des masses. Pourtant, tu sais que tu l'as eu. Mais tu l'as plus. Tu l'as plus tout le temps, tu l'as plus vraiment. Maniaque, la pêche, la patate, l'envie de te battre. T'avais pas peur avant, mais y'avait pas d'avant. Y'avait que demain et maintenant. Y'avait pas le temps qui file gentiment. Y'avait que demain et maintenant. Y'avait pas le temps qui file gentiment. Le temps qu'avant t'avais, que t'avais tant avant. Dis-toi que demain, c'est maintenant. Dis-toi que demain, c'est tant que t'es vivant. Dis-toi que demain, c'est maintenant. Dis-toi que demain, c'est tant que t'es vivant.
Plus de 4 ans que Laurence, Cyril, Sophie et moi-même nous animons cette émission tous les 3e jeudi de chaque mois. Une émission que l'on souhaite accessible, pédagogique, simple, pour sensibiliser nos auditeurs aux problèmes écologiques de notre époque et donner la parole à des associations ou des individus qu'on n'entend pas assez sur les autres médias. Pour préparer cette émission et l'animer, nous n'avons que les limites que nous nous sommes fixées et qui se résument finalement à un seul mot, le respect. Cela ne nous empêche pas, parfois, la virulence des propos contre des pratiques qu'on estime contraires au bien commun, à la préservation de notre planète. Cette liberté d'expression, il m'est apparu d'une part que l'on ne l'apprécie sans doute pas assez à sa juste mesure, et que d'autre part, on n'en profite sans doute pas encore assez. La liberté d'expression pour les luttes écologiques, c'est faire parler les minorités, les moins entendues, contre les prophètes de l'industrie alimentaire, de l'industrie pharmaceutique, des politiques à la botte de l'économie à la botte des finances, de la finance. Car forcément, en face, ils sont plus forts, plus puissants. Mais sans liberté d'expression, sans des individus qui s'indignent, sans des associations qui leur donnent la parole, sans des scientifiques qui réalisent des études qui dérangent, sans les médias qui les relaient parfois, que serait notre monde aujourd'hui? On allaiterait peut-être nos enfants en fumant de l'ammoniac et en mangeant des nuggets qui n'ont jamais vu de poulet, qui n'ont eux-mêmes jamais vu la lumière du jour, ou alors on n'aurait plus que des grandes surfaces et on serait persuadé qu'elle est là, la vie, la vraie. Alors évidemment, le socle de cette liberté d'expression, c'est l'éducation. L'éducation qui nous permet de vivre ensemble tout en confrontant nos points de vue et en appréciant nos différences. L'éducation qui nous ouvre l'esprit critique. Mais aujourd'hui, c'est vous, chers auditeurs, que l'on veut remercier. Vous qui prenez le temps d'écouter nos émissions, souvent imparfaites mais toujours sincères. Vous êtes à la radio ce que le consommateur est à l'économie, son carburant. Sans votre écoute, qui est une forme d'engagement, pas de radio, et moins de place pour cette liberté d'expression. Cette émission est présentée par Charlie Sophie, Charlie Laurence, Charlie Alexandre et à la technique Charlie Cyril, s'il veut bien t'arriver. On vous souhaite une bonne année. Zoom Écologie, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Bonjour, bonjour à tous. Bonne année Sophie qui est
caché à la technique aujourd'hui parce que Cyril est peut-être un petit peu en retard. On espère te voir arriver dans le studio. S'il les écoute, bonne année Cyril. Laurence est absente aujourd'hui. Et dans mon introduction, exceptionnellement, je n'ai pas annoncé nos invités. Et pourtant, ils sont nombreux autour de cette table. Donc, en deuxième partie d'émission, nous parlerons justement, nous donnerons la parole à des médias citoyens animés par des jeunes. Donc, on recevra Giuseppe Avige, qui anime un blog qui s'appelle Bondi Blog, et on recevra, si elle arrive également, Myriam Diabaté, de Reporters Citoyens. En milieu d'émission, c'est François Puelto qui nous fera le plaisir d'être notre parenthèse musicale de notre troisième jeudi, dont on a pu entendre un extrait juste avant, qui s'appelait...
Tu l'as plus,
voilà, tout un message. Et on va tout de suite attaquer avec Aurélie Greff, qui est avec nous pour représenter une association avec un nom très mystérieux qui s'appelle CIWF. Alors qu'est-ce que CIWF ? CIWF, c'est une association qui s'intéresse au bien-être animal et à la lutte contre l'élevage intensif. Je fais bref, mais on va en parler. Bonjour Aurélie.
Bonsoir.
Et bonne année.
Merci, vous aussi.
Alors, en fait, j'avais envie de commencer par quelques idées reçues. Par exemple, sur l'élevage intensif, puisque en France, par exemple, on est persuadé d'être le bon élève de l'élevage intensif, et finalement, on pense que l'élevage intensif y est moins développé qu'ailleurs, en Europe ou dans le monde. Mmh. Est-ce que déjà, vous avez envie de réagir par rapport à cette première idée reçue ?
Que c'est très joli les images d'Épinal, mais que c'est bien éloigné de la réalité. Et qu'en France, à peu près partout, comme en Europe et globalement dans le monde, on est à 80% d'élevage industriel ou intensif. Les deux évoquent la même chose. Donc, c'est-à-dire des animaux qui sont élevés en grand nombre, dans des bâtiments en général fermés, sans accès bien sûr à l'extérieur, mais bien souvent sans même accès à ne serait-ce que la lumière naturelle. Qui subissent beaucoup de mutilations pour être adaptés à des conditions d'élevage qui sont inappropriées. Tout ça pour une productivité maximale et une viande à bas prix.
Alors, et la France par rapport à d'autres pays, parce qu'on a toujours l'image de cette vache dans les champs qui broute de l'herbe bien verte. Est-ce que c'est quoi en termes de chiffres ?
Alors c'est vrai qu'en France, on a l'image parce qu'on voit encore nos vaches dans les pâturages, bien souvent les races dites à viande. Et donc c'est vrai qu'on brandit souvent la vache pour montrer que l'élevage, c'est très bien en France. Il faut savoir que si on prend sur d'autres espèces, on est par exemple à 95% d'élevage industriel intensif pour les cochons, par exemple, qui est quand même l'une des espèces les plus consommées en France. Les poulets, je pense qu'on n'a pas idée du nombre de poulets élevés en France. C'est 780 millions par an. 780 millions de poulets destinés à la consommation, donc, et 80% de ces poulets sont dans des élevages industriels.
Pourtant, dans les nuggets, il y a très peu de poulets, ça j'ai jamais compris, vraiment, c'est fou. Hein.
Ben voilà, mais en tout cas, la quantité est énorme. Si on parle d'autres espèces, par exemple les poules pondeuses, on est l'un des pires pays européens à garder toujours nos poules, à les élever toujours en cage. On est dans les 70% de poules encore élevées en cage. Et si on prend sur des espèces auxquelles on pense très peu, mais qui représentent quand même en nombre d'animaux beaucoup, je pense par exemple au lapin, c'est plus de 99% en élevage intensif. Donc d'accord. Autant dire qu'en France, c'est vrai qu'on a encore la chance...
Le lapin élevé en plein air, ça n'existe quasiment pas, quoi.
Non, ça n'existe quasiment pas. D'accord. Donc on a encore certaines vaches. Pour le lait, les vaches laitières, on voit que ça devient aussi de plus en plus intensif. Beaucoup, peut-être parmi ceux qui nous écoutent, auront entendu de l'élevage des 1000 vaches, parce qu'il était assez emblématique d'un combat.
Oui.
C'est le premier méga élevage laitier qui débarque en France et donc beaucoup d'associations se battent contre ce projet, mais même des élevages plus réduits, il y a de plus en plus de vaches qui là non plus n'ont plus accès au pâturage.
Deuxième idée reçue ou pas reçue, la culture intensive c'est aujourd'hui nécessaire pour nourrir la planète.
Alors ça, c'est une idée complètement fausse qui est souvent assénée avec une telle affirmation qu'on se dit que c'est forcément vrai. En fait, c'est assez inefficace, l'élevage industriel, parce que pour nourrir des animaux qui sont enfermés dans des bâtiments, on va cultiver des céréales, on va cultiver du soja, qui sera en plus au passage la plupart du temps OGM, et qui sera bien souvent lié à un petit peu de déforestation et qui va arriver un petit peu de pays d'Amérique du Sud. Donc il y a pas mal d'autres impacts qui sont à prendre en compte. Et donc en fait, on se retrouve dans des situations assez aberrantes de donner, par exemple, 60%, c'est énorme, 60% des céréales cultivées en Europe sont destinées à nourrir des animaux. Des céréales qui pourraient être consommée par des humains. Donc en fait, on utilise l'essentiel presque des productions pour nourrir des animaux qui vont nourrir essentiellement des pays, on va dire les pays riches.
Et il y a un chiffre que vous m'avez donné quand on a préparé l'émission, c'est que 100 calories de céréales produisent finalement 3 calories de viande.
Alors ça dépend beaucoup des espèces, mais on a une déperdition. La moyenne, alors là c'est pour dans le pire des cas, mais
c'est le pire des cas. D'accord.
En général, voilà, on dit qu'on peut récupérer pour 100 calories qu'on donne aux animaux sous forme de céréales, par exemple, donc qui pourraient être consommées par les hommes, on va en récupérer en moyenne 30 sous forme de lait et de viande. Donc c'est vrai qu'il y a des animaux pour qui c'est plus et d'autres moins, donc il y a des cas un peu extrêmes, mais en moyenne, on reste quand même...
Si on mange directement la calorie,
on nourrit beaucoup plus de monde.
Céréales,
il y a des calculs qui ont été faits. Aujourd'hui, on pourrait très bien nourrir le monde, ça on le sait, mais même on pourrait nourrir plus de 2 milliards d'habitants en plus si on consommait les céréales au lieu de les donner à manger ou des animaux. Donc, vaut mieux mettre des animaux, donc réduire le nombre, bien sûr, qu'on élève, hein, ça va de soi, mais également les mettre dans des pâturages pour qu'ils puissent consommer de l'herbe ou des choses qu'on ne mange pas, mais pas des céréales qui peuvent être consommées par les humains.
D'accord. Troisième idée reçue qui m'est venue à l'esprit en préparant cette émission, les labels sont une garantie du bien-être animal et de la qualité de la viande.
Alors, ça dépend lesquels. Donc là, c'est une réponse un petit peu de Normand, mais c'est vrai qu'il y a certains labels qui vont nous garantir une meilleure prise en compte du bien-être animal. Je pense par exemple au label AB, donc agriculture biologique. Dans tous les cahiers des charges, quelles que soient les espèces, il y a des recommandations qui prennent vraiment en compte le bien-être animal pour toutes les espèces. D'autres labels sont moins fiables parce que ce sont des signes de qualité qui bien souvent sont liés à des meilleures conditions d'élevage des animaux, mais pas systématiquement. Par exemple, le label rouge, c'est vraiment un label qui a de très bons signes de qualité quand on veut acheter des œufs plein air label rouge ou quand on veut acheter un poulet élevé en plein air label rouge, ce sera très bien. Quand on prend un simple label rouge pour du jambon, par exemple, ça ne signifie pas des conditions exceptionnelles en termes de bien-être animal pour les cochons. Ils ont effectivement légèrement plus de place par animal, mais ils seront toujours sur du caillebotti intégral. Ils auront toujours la coupe des queues systématique. Ils n'auront pas de paille. Enfin voilà, donc les conditions ne sont pas idéales non plus sur certains labels.
Donc ce qui est quand même dingue, c'est que ça veut dire, si on a bien compris, que les labels varient leurs critères selon les espèces.
Dans certains cas, oui, parce qu'il y a une philosophie derrière un label souvent. Et certains labels, c'est la qualité du produit fini. Donc, il ne prend pas toujours en compte la qualité de vie de l'animal, alors que certains labels, par exemple biologiques, prennent en compte intrinsèquement le bien-être animal dans ses critères.
C'est dingue quand même.
Et est-ce que quand il y a sur une boîte d'œufs, quand il y a écrit des œufs de poules élevées en plein air, on est sûr qu'elles ont été élevées en plein air ?
Oui. Bon, alors après, je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver qu'il y ait un scandale un jour, mais non. L'étiquetage qui est fait, qu'il y a un étiquetage obligatoire depuis 10 ans maintenant en Europe, et d'ailleurs c'est le seul produit d'origine animale qui est étiqueté, c'est vraiment la seule façon de vraiment savoir comment l'animal a été élevé. Donc si vous choisissez du 0 ou du 1, vous savez que vous avez vraiment un animal qui aura eu accès au plein air. Si on choisit du 2, ce qui est assez rare dans les supermarchés, c'est un animal qui aurait été enlevé en bâtiment. Mais au sol, donc c'est quand même mieux que la cage. Et le 3, vous êtes sûr d'avoir eu une pouille qui a passé sa sinistre année de vie dans une cage où elle ne peut même pas étendre ses ailes, où elle ne peut pas gratter le sol, où elle ne peut pas picorer. En général, on l'aura débéqué. Enfin voilà, on est sûr qu'on a le pire.
Débéqué,
c'est-à-dire qu'en fait...
On lui coupe le bec.
Voilà, on va lui débéquer ou épointer, c'est-à-dire qu'on va couper un petit bout du bec. En fait, il faut savoir que les poules, les animaux, ils ont des besoins comportementaux vraiment essentiels. Donc il y a des besoins comportementaux qui sont toujours pris en compte dans les élevages, à savoir manger, boire, ce genre de choses. Mais ce n'est pas suffisant pour un animal, il a aussi des besoins comportementaux. Donc la poule, ça va être d'étendre ses ailes, étirer ses ailes, ça va être de gratter le sol, ça va être de construire un nid. Donc voilà, toutes des choses qu'elle a besoin de faire. Et comme elle ne peut pas le faire dans les cages, elle peut développer des comportements agressifs tels que piquer les plumes des autres poules. Donc plutôt que de donner plus d'espace ou des bonnes conditions d'élevage, on enlève les becs.
Oh, mais c'est affreux.
Et la situation est la même pour les cochons. Je disais qu'on coupe la queue des cochons. Souvent, on leur lime également les dents. Il faut savoir que c'est également lié aux conditions d'élevage. Alors, vous avez sûrement rarement vu des cochons en plein air parce qu'il n'y a que 1% de la production en plein air. Mais un cochon, son besoin fondamental, c'est de fouiller le sol. Dans les élevages intensifs, il est sur du caillebotis intégral, ils sont nombreux, il n'a rien à faire. La seule chose qu'il pourrait voir bouger...
Caillebotis intégral, pour l'auditeur, c'est une sorte de grille,
c'est du ciment, du béton qui est ajouré avec des petites fentes pour laisser les excréments tomber en dessous.
D'accord.
Donc c'est, voilà, comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, de nettoyer de quoi. Il y a des cochons sur du ciment avec des trous, le lisier tombe directement en dessous et voilà. Ça fait rêver, hein, les conditions.
Et dans les autres pays, ça se passe comment ?
Alors, ça dépend beaucoup des pays et ça dépend là aussi beaucoup des espèces. Les cochons sont globalement assez mal lotis. Maintenant, il y a des élevages où, par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup plus d'élevages alternatifs sur paille qu'en France. Les poules pondeuses, il y a beaucoup plus d'élevages au sol globalement en Europe qu'en France. Les poulets, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. C'est une tendance assez générale. Et les lapins, c'est de toute façon, d'une façon générale, partout en Europe, des conditions 99% d'intensif.
Quatrième et dernière idée d'idée reçue, l'élevage intensif, est-ce que c'est toujours synonyme de mal-être animal ?
Alors, c'est une question un petit peu difficile à répondre. En fait, le bien-être animal repose sur ce qu'on appelle 5 libertés. Donc, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a liberté de ne pas souffrir de la faim et de la soif, ce genre de choses. Donc, il y a des libertés qui sont prises en compte. Mais les élevages intensifs peuvent difficilement répondre aux besoins comportementaux des animaux. Parce que la définition même de l'élevage intensif, c'est de pousser un peu l'animal à son maximum, d'avoir une forte productivité, d'avoir sélectionné des animaux pour grandir vite. Petite anecdote, par exemple, pour les poulets. On les a sélectionnés pour qu'ils grandissent très vite, ce qui fait qu'ils atteignent leur poids d'abattage en une quarantaine de jours, alors qu'avant, c'était le double, voire plus. Et donc, du coup, ils grandissent tellement vite qu'ils n'arrivent même plus à supporter le poids sur leurs propres pattes. Donc, on a des animaux qui ont soit des pattes qui cassent, soit qui ont des boiteries, hein, qui ont les pattes déformées, où leur cœur ou leurs poumons n'arrivent pas à suivre par rapport au volume de croissance.
D'accord.
Donc, comme on a sélectionné des animaux pour grandir vite, qu'on les met dans des conditions de stress, qu'on les entasse dans des bâtiments, quoi. C'est quasi impossible de respecter le bien-être animal. Entendu, pas simplement se contenter. Il y a des fois une confusion entre bien-être animal et maltraitance. C'est pas parce qu'on ne maltraite pas un animal, c'est-à-dire qu'on ne le frappe pas et qu'on lui donne à manger et à boire, qu'on respecte son bien-être pour autant.
Bien sûr.
Le bien-être va au-delà de la non-maltraitance.
De la survie, quoi.
Voilà.
On est d'accord. Donc, fort de ces constats, l'association CIWF est en fait une association qui a déjà un certain nombre d'années d'existence, qui est très peu connue en France.
Oui, qui est peu connue en France.
Comment elle est née, cette association, et qu'est-ce que signifient ces sigles mystérieux ?
Alors, mystérieux ou barbare, selon les terminologies qu'on va employer. Alors, CIWF, c'est une association qui a été créée en Angleterre, d'où cette terminologie un peu bizarre, qui signifie « Compassion Inward Farming ». Ce n'est pas un vocabulaire qui passe très bien en français, compassion dans le monde de l'élevage, mais c'était ça l'idée. Ça a été créé par un éleveur qui, dès les années 60, s'inquiétait de l'intensification de l'élevage. Lui-même était éleveur et il voyait ce qu'on lui demandait. On lui demandait de se mettre à faire de l'intensif et il ne voulait pas faire ça. Et il y avait vraiment un vide, c'est-à-dire que dans les années 60, il a d'abord commencé à aller voir toutes les associations de protection animale existantes à l'époque en leur demandant de se préoccuper des animaux d'élevage. Il n'y en avait aucune dédiée sur le sujet, et toutes les associations existantes s'occupaient soit de la faune sauvage, un petit peu, soit des chiens et des chats. Mais il y avait un grand vide, personne ne s'intéressait aux façons dont on élevait nos animaux. Donc face à ce vide, il a décidé de créer son association, et donc c'est comme ça que CIWF est né, donc il y a, voilà, à la fin des années 60, et aujourd'hui on est présent assez largement en Europe, et on est en France depuis 2009.
Aux États-Unis aussi, non ?
On est également aux États-Unis, on est en Chine aussi, parce qu'il faut savoir que la Chine, c'est un pays qui est en train de suivre une courbe de croissance de production, enfin d'élevage d'animaux pour la production de viande qui est assez vertigineuse. Mmh. Et on est également en Afrique du Sud. D'accord. Un petit exemple, la moitié des porcs élevés dans le monde, des cochons, sont élevés en Chine.
D'accord. Et pendant toutes ces années, donc une quarantaine d'années, est-ce que le combat a changé ?
Alors, il y a eu de belles victoires et on a un peu changé aussi notre façon de travailler. Alors, c'est vrai que parmi les belles victoires, il y a eu le fait de reconnaître dans les traités européens que l'animal est un être sensible. C'est ce qui est un grand débat encore en France qui a été beaucoup au cœur de l'actualité avec le statut juridique de l'animal. On voit qu'on a encore du mal, alors que ça pourrait paraître assez basique, de reconnaître qu'un animal est un être sensible qui ressent la peur, la douleur, la joie comme nous. Donc il y a eu ces premières victoires ont été faites au niveau européen. Une autre des victoires, ça a été d'agrandir et d'interdire les cages pour les poules qui étaient ce qu'on appelait les cages conventionnelles, donc qui étaient vraiment des cages nues, sans rien et très petites. Donc là, elles sont légèrement plus grandes, elles ont quelques petits aménagements. Il y a eu l'interdiction des cages pour les veaux, qui a quand même été une belle avancée. On a obtenu aussi l'interdiction des cages de gestation pour les truies après les 4 premières semaines. Donc il y a des petites améliorations. Ce sont des améliorations qu'on a essentiellement obtenues au niveau européen. Oui. Puisque ce qui fait, en fait, à chaque fois qu'en France, il y a une avancée au niveau législatif, c'est parce qu'il y a une directive européenne. En fait, la France, spontanément, ne fait pas grand-chose en matière de bien-être animal. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout ce premier travail au départ qui était très législatif et qu'on continue. Et on travaille depuis pas mal d'années maintenant avec les entreprises agroalimentaires pour faire évoluer leur cahier des charges. Parce qu'on sait que quand une grande entreprise a décidé de ne plus faire de la mayonnaise avec des œufs de cage, mais de la mayonnaise avec des œufs de plein air, bah ça change, elle change son cahier des charges et tout de suite on révolutionne la vie de nombreux animaux.
Donc on va parler des différents moyens d'action de votre association, effectivement, puisque là vous avez abordé le troisième. On peut commencer par ça d'ailleurs.
Je peux continuer parce que vous parliez un peu.
Parce que c'est effectivement une des spécificités de votre association. C'est qu'un de vos moyens, enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais un de vos moyens d'action, c'est effectivement une forme de collaboration avec l'industrie alimentaire.
Ouais,
c'est ça du coup qui fait que le combat que vous menez, il est dissocié des autres associations dont on pourrait croire qu'elles mènent aussi le même combat.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux d'une façon générale à travailler avec les grandes entreprises type Unilever ou McDonald's ou Danone ou ce genre d'entreprise. Nous, on cherche vraiment à faire en sorte que leur cahier des charges évolue et qu'ils intègrent pleinement le bien-être animal. Et aujourd'hui, chaque année, on fait le calcul un peu en fonction des engagements qu'ont pris les lauréats de nos trophées, puisque tous les ans, on remet des trophées aux entreprises qui s'engagent. Et on est à 287 millions d'animaux qui, chaque année, voient leurs conditions d'élevage améliorées. Donc nous, c'est aussi une façon aussi de montrer que notre travail, il est vraiment, il sert à quelque chose, il est efficace, et 100 millions d'animaux que ça se compte. Donc ce travail-là est important.
D'accord,
et on le fait beaucoup au niveau européen parce que, là encore, dans les grandes entreprises agroalimentaires, maintenant, elles sont de plus en plus européennes, même si on travaille aussi avec des entreprises françaises pour faire évoluer leur cahier des charges également.
Et ces entreprises, elles viennent vers vous ou vous allez vers elles ?
Il y a les deux.
Il y a des entreprises qui viennent vous voir pour vous dire.
Il y a des entreprises.
Il
faut savoir qu'on est vraiment reconnu pour cette expertise. On est une organisation de référence en matière de bien-être animal au niveau international. On est vraiment l'organisation de référence. Donc on a des entreprises qui viennent aussi nous rencontrer de plus en plus en nous disant on a bien pris conscience que c'était une vraie question de société aujourd'hui, le bien-être animal. Et qui nous demandent des conseils, de l'aide, comment ils peuvent améliorer les choses. Donc il y a une partie agroalimentaire qui est visible à travers ces fameux trophées, mais également toute une partie où on fait de l'aide, comme ferait un consultant, donc on fait à titre gracieux, mais voilà, parce que l'objectif est d'améliorer la situation des animaux.
Vous travaillez avec McDo, par exemple ?
On a travaillé avec McDo. McDo utilise des œufs qui sont hors cage.
Grâce à votre intervention ? Sur vos conseils, en tout cas.
Voilà. Et dans certains pays, alors tous
ne
sont pas...
Comment vous les avez convaincus ? Enfin, qu'est-ce qui peut convaincre McDo d'utiliser des œufs hors cage alors que ça ne change rien pour eux ? Ça leur coûte plus cher.
Je pensais même pas qu'ils utilisaient des vrais œufs.
si, quand même, ils utilisent des vrais produits. Non, mais il y a beaucoup de marques. Alors, certaines font le choix de communiquer dessus et ça devient un argument marketing. Si vous allez dans un supermarché aujourd'hui, vous allez bien souvent voir des mayonnaises où c'est précisé avec des œufs plein air. Dans les biscuits Saint-Michel, ils ont une partie de leur gamme qui est avec des œufs plein air et ils le marquent clairement. On travaille avec Ben & Jerry's qui fait des glaces avec du lait issu aussi d'élevage pleinement respectueux des vaches laitières. Et ils l'utilisent parce qu'ils le disent.
C'est un argument de vente pour eux.
Ils le disent clairement qu'ils se soucient de cette question-là et ils ont raison de le dire parce qu'il y a quand même une prise en compte de plus en plus importante dans les consommateurs. Il y en a quand même de plus en plus qui sont sensibilisés par cette question. Quand on pose des sondages, les sondages, on sait ce qu'on en fait et ce qu'on en a, parce qu'il y a une différence entre la pensée et les actes, on va dire. Donc, c'est pas parce que les trois quarts des gens disent qu'ils vous tiennent compte du bien-être animal qu'ils le font réellement, mais en tout cas, il y a quand même une préoccupation qui est là. Donc, les marques qui jouent sur ce sujet-là sont en général gagnantes. Après, il y a des histoires de coûts. Il faut savoir que le bien-être animal n'est pas toujours beaucoup plus cher. Et typiquement pour les œufs, c'est le cas, que d'autres produits.
Bah, c'est ça qui est terrible aussi, c'est que j'allais dire, il faut avoir les moyens aussi pour pouvoir acheter de la bonne viande dont on est sûr que les animaux ont été élevés de manière respectueuse, etc. Pour parler que de la viande. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux mondes, c'est-à-dire soit on décide d'avoir un budget plus important et puis on peut prendre le truc en compte, ou alors bah, quand on a moins d'argent, voire pas beaucoup, on est obligé de ou alors il faut pas manger de viande.
Ouais, alors on n'est jamais obligé, c'est toujours un choix de consommation. Et très clairement, nous, c'est ce que l'on conseille et recommande fortement. C'est-à-dire que la solution, c'est de manger moins, mais mieux. Et ça, en plus, c'est bénéfique à tous les points de vue. On va se retrouver avec un budget qui peut être même réduit, parce que si on remplace une partie de la viande qu'on consommait par d'autres produits d'origine végétale, c'est le kilo de lentilles n'est pas du tout au prix du kilo de la viande, donc vous y gagnez. Vous en consommez moins, mais elle sera de meilleure qualité, donc vous pouvez aussi espérer prendre plus de plaisir par rapport à ce que vous consommez. L'idée de la réduction aussi, on sait maintenant, il y a quand même de très très nombreuses études qui parlent, qui indiquent clairement qu'une consommation importante de viande est à l'origine, on parle beaucoup des maladies dites de civilisation, c'est quand même beaucoup des maladies liées à notre consommation de produits raffinés et de viande. Donc on sait aussi que pour la santé, c'est plutôt bien de réduire. Quand on regarde après, on en viendra peut-être aussi à ces sujets-là, mais sur les impacts environnementaux de l'élevage, on a tout à y gagner, aussi bien pour notre santé, pour nos animaux et pour notre planète. Donc ça va ensemble, ça va une réduction, manger moins et faire des choix plus éthiques.
Je vais donner un exemple. Typiquement, en Seine-Saint-Denis, il y a une réduction du nombre de magasins bio. Il y en a beaucoup qui font faillite. Et c'est vrai, typiquement, c'est l'exemple des gens qui n'ont pas assez d'argent pour consommer bio.
C'est pas forcément qu'une question d'argent, c'est beaucoup, je pense, une question d'éducation à une alimentation de qualité.
Est-ce que vous avez des projets d'éduquer peut-être la population à adopter de nouveaux comportements alimentaires ?
Alors nous, on fait des campagnes d'information sur à la fois comment sont élevés les animaux, et on fait aussi...
Alors deuxième moyen d'action, justement.
Voilà, donc d'informer, de sensibiliser sur comment sont élevés les animaux, comment faire des choix plus respectueux des animaux. Après, nous, on incite à réduire sa consommation de viande. Si on peut choisir du bio, c'est bien, mais on n'est pas non plus à dire vous devez manger 100% bio. On dit qu'il y a d'autres labels. Si vous achetez du poulet, prenez du label rouge et c'est très bien. Donc on n'incite pas, on n'impose pas non plus, on ne cherche pas à vendre absolument le bio. Et après, c'est revoir notre façon, notre modèle de consommation, c'est quand même beaucoup, on travaille plus sur les politiques alimentaires, donc là qui rejoint notre troisième axe de travail, qui est beaucoup sur faire évoluer les politiques alimentaires. En France, on a encore des recommandations un peu archaïques, je dirais, qui sont manger 3 à 4 produits laitiers par jour, qui sont manger de la viande 2 fois par jour. Enfin voilà, il y a toute une éducation à refaire à ce niveau-là et dans les messages qui sont donnés par les politiques publiques. Un des moyens d'action, par exemple, qui serait un très très bon levier, c'est dans tout ce qui est la restauration collective. Là, il y a un levier formidable de dire que dans les appels à des fournisseurs ou autres, on inclut le bien-être animal, on augmente la part de bio. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites déjà à ce niveau-là. Et si au niveau de la restauration, il y en a déjà. Et là, il y a des villes qui s'engagent. On avait beaucoup travaillé à une époque avec Saint-Étienne qui intégrait des menus bio, qui avait fait le choix de mettre que du plein air. La ville de Paris aussi avait fait le choix d'utiliser des œufs uniquement plein air. Enfin, donc il y a quand même des engagements qui sont pris. Mais c'est quelque chose de faire. On peut faire facilement évoluer beaucoup en très peu de temps. On pourrait décider qu'au lieu de donner qu'on donne des subventions, qu'on attribue aussi des subventions en fonction des choix qui sont faits au niveau des politiques publiques.
Est-ce que le bio, est-ce que c'est forcément lié au bien-être animal ? Ou est-ce qu'il y en a du bio ? Est-ce qu'il y a du bio intensif ? Enfin, peut-être que je pose une question complètement naïve, mais je veux dire que je me suis parfois posé la question.
Alors, le bio ne veut pas forcément dire petit élevage fermier où la personne a 3 poules dans sa cour. C'est, c'est pas ça. Bio, ça prend en compte les critères de bien-être animal. Ça veut dire que votre poule va sortir à l'extérieur, qu'elle aura... un nombre de mètres carrés en bâtiment intérieur, un nombre de mètres carrés minimum à l'extérieur, qu'elle aura des conditions aussi, des caractéristiques du bleu, c'est l'alimentation que va recevoir la poule. Donc il y a ces critères-là. Après, ça ne veut pas dire que c'est des petits élevages. Ça peut très bien être un élevage, un bâtiment avec 6 000 poules dedans. D'accord. Ça reste, après, ça reste...
Mais un bien-être animal.
Mais voilà, après, c'est vrai que dans certaines productions, on n'a pas du tout de limite, alors qu'en bio, il y a quand même, en général, toujours une limite sur le nombre d'animaux. En conventionnel, on peut avoir des bâtiments avec, on peut avoir des bâtiments avec 30 000 ou 100 000 animaux dedans. Ça existe. Et c'est vrai que c'est le cas aux États-Unis et ça commence à le devenir aussi. Enfin, il y a de plus en plus de projets qui débarquent en France sur ce qu'on appelle les méga-élevages.
Et avec le grand marché transatlantique, est-ce que vous risquez qu'on importe ces pratiques ?
Ça, c'est une grande crainte. Dans les moyens d'action, je citais faire changer les politiques publiques et tout ça. Et c'est vrai qu'on a une personne qui travaille, enfin, on a plusieurs personnes, mais dont une qui est basée à Bruxelles, où on essaye de sensibiliser aux risques qui sont liés. Et avec ce traité, on a organisé récemment, avec d'autres organisations, d'autres ONG, une conférence à la Commission européenne sur le sujet, parce que justement, on craint, nous, que... ce nivellement pour se mettre d'accord, eh ben on choisisse ce qu'il y a le plus bas. On sait très bien qu'il y a des méthodes d'élevage qui sont encore pires, entre guillemets, aux États-Unis qu'en Europe. Et on ne voudrait surtout pas que ces accords aboutissent à un nivellement par le bas, qu'on se retrouve avec notamment ce que souhaitent les États-Unis, c'est pouvoir importer du bœuf aux hormones dans nos pays. Enfin, voilà, y a une vraie inquiétude au sujet du TAFTA ou TTIP, selon le nom qu'on lui retient.
J'aimerais qu'on termine sur le rôle puisque c'est quelque chose qu'on dit régulièrement dans cette émission, c'est que c'est quand même le consommateur qui tient les rênes de tout ça. Mm. Donc qu'est-ce que peut faire le consommateur aujourd'hui pour, à son échelle, pour faire évoluer ses politiques et ses habitudes de consommation
Alors il y a plusieurs choses très simples. Le plus simple, et où chacun... Enfin, souvent, quand on est face à des problèmes d'écologie ou des choses comme ça, c'est des problèmes globaux qui ne sont pas faciles ou on ne peut pas forcément les faire changer d'un coup de baguette magique. Par contre, s'il y a un sujet sur lequel on peut vraiment apporter concrètement sa pierre à l'édifice, c'est l'alimentation. Parce que 3 fois par jour, on fait un choix. On vote, on dit quel système on veut favoriser. Donc 3 fois par jour, on a l'occasion de dire « moi, je refuse le système intensif et je refuse toutes ses conséquences, que ce soit sur la déforestation, le changement climatique, les inégalités aussi, parce qu'on donne des céréales à des animaux au lieu de les donner aux hommes. » Et donc 3 fois par jour, on peut dire « moi, je choisis différemment ». Donc ça peut être le premier choix, c'est au quotidien, dans son coin, de manger différemment, de réduire sa consommation de viande et surtout de choisir des produits issus d'élevage plus respectueux. Il y a d'autres axes qui peuvent être faits et qui sont, nous on le voit, qui sont porteurs, c'est de ne pas hésiter à faire savoir que l'on souhaite des produits plus respectueux. Nous on voit qu'on a des fois des entreprises qui viennent nous voir parce qu'ils ont reçu pas mal de courriers ou de demandes ou de questionnements de leurs consommateurs en disant « mais qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là » Et donc, ils intègrent cette nouvelle donne. Il faut savoir que les supermarchés et les producteurs, ils produisent ce qu'ils arriveront à vendre. S'ils commencent à avoir un peu peur que finalement, ça risque de moins bien se vendre, ils en feront moins. C'est ce qui est apparu sur les œufs. Une fois qu'il y a eu l'étiquetage obligatoire, beaucoup plus de gens ont acheté du plein air. Et du coup, la cage a quand même bien baissé par rapport à ce qui était il y a 10 ans. Donc le consommateur, il a quand même un vrai pouvoir.
Ah oui, bien sûr.
Alors le problème, c'est qu'il faut qu'il soit au courant. Nous, c'est pour ça qu'on a une campagne pour demander l'étiquetage obligatoire selon mode d'élevage sur tous les produits d'origine animale pour qu'il puisse faire un choix éclairé. Aujourd'hui, ceux qui font bien le disent, ceux qui font mal le disent pas, et ils mettent des petits emballages. On voit un peu une campagne. Enfin, on pourrait presque croire, c'est marqué en gros gros œufs frais pour essayer de noyer le poisson, qu'en fait c'est de l'eau de cage. Donc là, c'est quand même indiqué. Par contre, sur les emballages de lait, vous voyez des paysages de pâturage, alors que c'est des vaches qui n'ont jamais vu un pâturage. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut changer. Et il y a aussi le moyen au niveau politique, parce qu'on voit que là aussi, si on interpelle ces députés et qu'on leur pose des questions, quand nous, on va les rencontrer et qu'on les sollicite, s'ils ont eu plusieurs personnes qui leur ont posé les questions, ils sont aussi plus attentifs à ce qu'on leur dit. D'où le fait qu'on utilise aussi beaucoup, nous, des actions de type pétition ou ce genre de choses, parce que quand on arrive à la Commission européenne avec 500 000 signatures de citoyens européens, ils se disent « Ok, il y a une vraie préoccupation ».
Donc consommer mieux, en vérifiant les labels notamment, en se renseignant, vous pouvez peut-être faire la promotion
la
du guide, la page publicitaire du guide du consommateur responsable que vous distribuez gratuitement à ceux qui en font la demande. Ouais. C'est un tout petit guide là que j'ai devant moi, qui est un petit leaflet de 8 pages, en gros.
Donc le guide du consommateur responsable, c'est un outil qui est très simple, où on reprend pour les principaux produits que l'on consomme, donc les œufs, les poules, les vaches, les cochons, comment s'y retrouver dans les labels et pas... et pas être noyé dans tout ça. Et c'est vrai que si quelqu'un souhaite le recevoir, on l'envoie gratuitement. Il suffit de le demander sur notre site internet.
D'accord, CIWF.fr. D'accord. On peut manger moins de viande. Je voudrais juste une réponse précise à une question que j'ai posée aujourd'hui, dont une discussion que j'ai eue avec une collègue aujourd'hui qui me disait « Oui, mais moi, mon médecin m'a dit, pour son fils, qui est donc un jeune enfant, très jeune, il faut manger, il faut qu'il mange de la viande 2 fois par jour. » C'est quoi la réalité scientifique de cette question ? Enfin, comment je peux répondre à ça ? C'est-à-dire que les médecins, déjà, ça veut dire que les médecins ne sont pas au courant.
Les médecins ne sont pas au courant, non, ça c'est clair. Surtout particulièrement en France.
Est-ce qu'il y a un âge où il faut quand même manger de la viande, où on peut vraiment s'en parler, où on peut s'en passer dès le plus jeune âge, ou en tout cas en manger beaucoup moins ?
Il n'y a pas d'âge où il faut manger de la viande. Il n'y a aucune obligation de manger ni viande ni poisson d'ailleurs. Ce sont des choix. Il y a plein de pays où plein de gens qui n'ont jamais mangé et qui se portent très bien. Il y a la plus grande association de diététiciens aux États-Unis qui fait des études régulièrement et qui publie ses positions sur le sujet et qui dit que l'alimentation végétarienne équilibrée est parfaite pour la santé à tous les stades de la vie. Donc là-dessus, il n'y a pas d'obligation de consommer. En France, en général, les médecins ne sont pas du tout au courant. Il faut savoir qu'ils ont 6 ou 8 années d'études et ils ont un cursus de 3 jours sur l'aspect nutrition et qui est souvent donné en plus, par des gens liés avec l'industrie agroalimentaire. Donc en fait, en tout cas, on n'en a pas besoin. Après, nous, on n'est pas une organisation végétarienne. On n'est pas en train de dire aux gens de devenir végétariens. On appelle à une forte réduction de la consommation. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un choix de consommation et qu'il n'y a pas d'obligation à manger de viande.
Eh ben, merci pour toutes ces informations. Ça te donne envie d'aller manger un hamburger après l'émission, François ?
Ouais, moi, je suis effaré, Aurélie. Non, mais c'est l'histoire des poules débéquées, moi, ça m'a vraiment fait un choc.
Alors, il y a des vidéos que tu devrais regarder sur le site de CWF qui sont assez bluffantes. On voit parfois ce genre de reportage sur les chaînes un peu sérieuses, etc. Mais là, on a des petites vidéos très courtes qui donnent un peu... t'arrêtes un peu de manger du lapin, après, par exemple, quoi, parce que tu vois les lapins dans les cages qui sont noyés sous leurs excréments, jamais lavés, etc. C'est juste abominable, hein, quand même.
Non, mais surtout, c'est ce qui me... le fait que vous disiez qu'en France, on a du mal à reconnaître que les animaux sont des êtres sensibles, ça, je trouve ça fou. D'autant qu'on passe quand même notre temps à lire à nos enfants des histoires avec des petits lapins, des petits ours et des petits...
Regardez les livres pour enfants. Il y a plein de livres pour enfants à la ferme. Et c'est à chaque fois des animaux heureux qui se roulent dans la boue. Mais on est tellement loin de la réalité. Les cochons qui ont une queue en tire-bouchon, mais ça n'existe plus. Elles sont toutes coupées.
C'est un mythe s'effondre. Un mythe pour François qui s'effondre. Alors François Puyelteau, bassiste, compositeur, auteur, interprète. Bonjour, bonne année François.
Bonne année à tous.
Alors écoute, on a presque le même âge, j'ai vu ton tabio, mais enfin ça, nos auditeurs s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse beaucoup. Ça restera entre nous. Ce qui les intéresse beaucoup, par contre, c'est que. Ouais, j'espère, c'est que tu as eu une longue carrière musicale d'instrumentiste avant cette jeune carrière d'auteur-compositeur que tu démarres avec des artistes très célèbres. Alors plutôt en tant que bassiste, c'est ça en fait ?
Oui, c'est ça. Ouais,
Tu n'es pas obligé de t'approcher trop du micro, c'est ça ? Hein, il peut parler librement s'il parle dans le micro ? Bon, bref. Ça fait juste 4 ans que je fais cette émission, je ne sais toujours pas s'il faut parler dans le collet dans le micro ou pas. Bon, bref. Neri, Émilie Loiseau...
Chris Manson,
voilà.
Chanteuse canadienne. Bah oui, en fait, j'ai passé pas mal de temps à écouter de la musique d'abord.
Non, mais ça rapporte rien, ça.
Ça rapporte absolument rien, mais ça nourrit beaucoup. Mm-hmm. Et voilà, je me suis intéressé beaucoup au jazz et puis à la chanson et j'ai accompagné pas mal de gens. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai appris plein de choses. J'ai joué un peu partout et puis petit à petit, voilà, j'ai eu envie d'écrire moi aussi.
Bon, il faut que je parle moi-même parce que j'ai des choses à dire.
Moi aussi, merde.
D'accord. Ça me fait penser Liam Gallagher, c'est quel chanteur d'Oasis qui a été Rhodes pendant des années.
Ah oui.
Et à force de porter des enceintes de groupe, si c'est pas possible, faut vraiment que ça ne peut que marcher pour moi un jour, parce que
force
de
porter des
enceintes d'artistes.
C'est une revanche.
C'est un peu une revanche. Ouais. Toi, c'est pas une revanche.
Moi, c'est pas une revanche.
C'est... Donc, c'est depuis 2012 que tu t'es lancé dans cette technique d'écriture, voilà, et tout ça, et que.
C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. J'ai fait des concerts à droite à gauche, et puis là, j'ai concocté un premier disque court. Avec mes deux compagnons de musique avec qui je joue depuis longtemps, Tariq Chawash et Raphaël Corner. Et donc ça va donner un petit topé qui va sortir bientôt, là dans un mois.
Eh ben, très bien. Alors on va écouter un titre en live, comme on fait toujours dans cette émission. Et puis juste après, on pensera donner tes dates de concert, on rappellera l'EP et puis le reste du site.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que tu vas nous chanter là du coup ?
Je vais vous chanter peut-être... Alors c'est pas fait exprès... C'est lié surtout au banjo, parce que normalement, moi, les chansons, je les chante en jouant de la basse électrique. Comme c'est pas possible dans ce studio, j'ai sorti mon banjo. Mais il se trouve que c'est peut-être ma chanson la plus écologique, finalement.
C'est formidable.
Enfin, voilà, j'en suis pas sûr, mais elle s'appelle « L'infini ».
C'était donc François Puyelto en direct sur Fréquence Paris Pluriel. On est dans Zoom Écologie, troisième jeudi. Merci François.
Merci à vous.
Alors des dates de concert bientôt là, avant de passer.
Alors bah, pour la plus proche de nous, c'est demain. Voilà, demain.
Ah bah, on est dans l'actualité, formidable.
Demain, je jouerai dans un petit café-concert avec un nom très beau qui s'appelle La Joie du Peuple. Et je partagerai le plateau avec Armelle Dumoulin, qui est une amie... chanteuse aussi, j'adore ce qu'elle fait, elle vient plutôt du théâtre et elle invente et elle incarne des chansons complètement singulières avec sa manière à elle, hein, une manière d'écrire vraiment, c'est un espèce d'ovni.
Tu lui parleras de notre émission si elle veut venir un jour, un troisième jeudi ?
Je lui parlerai de votre émission si elle ne la connaît pas. Ouais.
Donc ça, c'est la Joie du Peuple, c'est dans quel quartier ?
La Joie du Peuple, c'est 83 rue Alexandre Dumas, c'est dans le 20e à Paris. Je ne sais plus quel métro, voilà, c'est à 21h, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et ensuite, je jouerai aussi dans un lieu dans lequel je joue souvent, qui s'appelle le Limonaire, à la fin du mois, les 30 et 31. Alors là, c'est trois plateaux, on est trois artistes à passer deux soirs. Ça, c'est rue Bergère dans le 9e. Et puis, en parallèle de ce projet chanson, là, je suis aussi bassiste pour d'autres groupes, dont un groupe super qui s'appelle Horseradish. Et on fera un concert pour fêter la sortie d'un album là, qui s'appelle Electric Klezmer, mardi prochain au Disquaire, qui est un bel endroit aussi dans le 11e arrondissement à Paris. Voilà.
Eh bien, merci. On vous trouve facilement sur Internet en tapant François Puyalto, P-U-Y-A-L-T-O. C'est sur hébergé par Wix, je crois.
Oui, voilà.
Donc, on trouve des vidéos, des extraits, tout ça. Merci d'être venu.
Eh bien, merci à vous de m'avoir invité.
Et puis, je vais laisser la parole à Sophie, qui a invité deux jeunes journalistes pour un débat sur les médias citoyens.
Ouais, merci, Alexandre.
Avec grand plaisir.
On va rétablir un peu de parité, puis maintenant, on n'a plus qu'un quart d'heure, donc on va essayer d'aller vite. Le temps d'installer les micros comme il faut. On a découvert hier, plutôt les Français en général, ont redécouvert qu'il y avait des kiosques à journaux et qu'il y avait de la presse. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, on a eu envie de parler d'une presse qui est un petit peu différente. C'est la presse citoyenne. On a invité deux personnes qui sont Myriam Diabaté. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Alors Myriam, tu viens de Saint-Denis et tu t'occupes d'un projet qui s'appelle Reporter Citoyen. Mais quand tu arrivais tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu participais aussi à une émission de radio qui était diffusée sur FPP.
Oui, qui s'appelle Radio Déclic. Et ça fait 4 ans que je fais de la radio. Et voilà.
Et bah, génial. Et en plus, c'est diffusé sur Fréquence Paris Pluriel, qui est aussi un Médoès citoyen. À côté de toi, on a Giuseppe Avige, qui participe au Bondi Blog, c'est ça ?
Ouais.
Donc, toi, tu es d'Aubervilliers, je crois.
Ouais. C'est ça.
Alors, vous, c'est quoi un média citoyen ? Comment vous le concevez ? Et pourquoi vous avez décidé de participer, toi, Myriam, à Reporter Citoyen, et toi, Giuseppe, au Bondi Blog ? Comment c'est venu, le Bondi Blog, alors ?
Le Bondi Blog, c'est venu par une envie de parler des sujets de mon entourage, de mon quotidien. Donc c'est un peu une sorte de formation à mon avis, chaque citoyen devra avoir pour apprendre à s'exprimer et à participer au débat démocratique.
Merci. Et toi, Myriam, Reporter Citoyen, c'est quoi ? Et pourquoi tu as décidé de t'y engager dedans ?
Alors, Reporter Citoyen, c'est une formation de 3 ans qui forme des jeunes issus de quartiers sensibles aux bases journalistiques. Et en fait, on est libre de choisir nos sujets, en fait. Donc voilà. Et Reporter Citoyen, en fait, c'est destiné aux jeunes de 18 à 30 ans, de toute origine. Et en fait, on travaille avec des professionnels.
Et voilà. En fait, c'est sur 2 ans, vous avez une... T'as commencé en 2013, c'est
oui,
ça ?
Oui, parce que moi, en fait, je suis arrivée en retard. Donc sinon, ça a commencé en juin 2013. D'accord. Ça finit en juin 2015.
Donc c'est une sorte de promotion sur 2 ans, où à la fois on vous fournit une formation et en même temps on vous permet d'écrire des sujets sur un blog qui s'appelle Reporter Citoyen, c'est ça ?
Oui, et ça nous permet aussi d'avoir des relations. Et des relations... En fait, c'est plus pour créer du réseau, pour se créer du réseau, parce qu'à la fin, en fait, on n'a pas de diplôme, mais... On a beaucoup d'expérience et beaucoup d'acquis, en fait.
Et puis, ça permet d'aborder aussi, de voir un peu qu'est-ce que c'est que la vie de la cité, une forme de démocratie participative, parce que tu participes à ce qui se passe autour de toi, dans ta ville. C'est un peu les habitants qui, sur leur territoire, décident de faire de l'information.
Oui, c'est ça.
C'est pas un peu ça ?
Oui, c'est ça.
Et surtout qu'on est les plus à même à parler de notre territoire. Par exemple, là, quand on a vu récemment ce qui s'est passé... avec les attentats de Charlie Hebdo et par exemple, les émeutes de Trappe en 2005 qui ont donné lieu à la création du Bondy Blog, par exemple, où on avait vu des journalistes qui venaient pendant les émeutes et qui repartaient le soir. Ça ne permet pas d'avoir vraiment une vraie vision de la situation et de pouvoir pondre des vrais sujets. Tandis que nous, au Bondy Blog, dans tous les médias citoyens, on a une vision complètement différente de l'information. C'est qu'on va plutôt y aller en immersion. C'est notre quartier, on s'y connaît, on sait comment s'y prendre. On pourra pondre vraiment des sujets qui sont plus proches de la réalité.
Par exemple, quel sujet, toi, tu as pu traiter ou que ça marquait vraiment que tu connaissais le sujet Tu as fait un sujet sur les municipales cette année, je crois.
Oui.
Dans ta ville, en l'occurrence, non?
Non, c'est dans la ville d'à côté, au Rincy.
Et du coup, là aussi, ça marque pour toi ce fait que tu débarques pas de Paris avec ton micro ou ta caméra, etc. Tu connais les gens, tu connais le terrain.
Oui, on connaît le terrain, on va interviewer les gens directement, on va leur poser des questions, on peut prendre un café avec eux pour avoir plus d'informations. C'est vachement du direct, du lien, c'est pas du tout avec la caméra, le micro et tout ça.
C'est un peu le sentiment que tu as aussi, Myriam ?
Ouais, mais aussi, moi, je voulais rajouter que ça ne s'arrête pas à nos quartiers. Parce que moi, par exemple, j'ai fait des sujets comme les tontines africaines. Ça a été dans mon quartier. Je suis partie...
C'est quoi la tontine africaine ?
Les tontines africaines, en fait, c'est une association, en fait, qui a été créée par... c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour créer une association et ils font un versement d'argent. Voilà, ils cotisent pour pouvoir faire comme...
Un grand pot commun,
voilà,
dans lequel on met plein d'argent.
Ouais. Et ça sert à aider son prochain, en fait. C'est, entre guillemets, la banque africaine, on va dire.
C'est-à-dire que du coup, dans le pot commun, on pioche et on décide de financer le projet de l'un ou l'autre des membres. En fait,
voilà, c'est ça. Et je voulais dire, en fait, là, je suis en préparation je fais en fait un article là qui va parler d'une styliste qui n'est pas connue, qui est née qui est née ici à Paris et qui habite à Villepinte. Et que j'ai interviewé. Pourtant, moi, je suis pas de Villepinte. C'est pour dire qu'on n'est pas limité qu'à nos villes, en fait. On peut se déplacer. Ouais. Voilà.
Mmh. Et comment ça se passe alors? Comment vous choisissez vos sujets? Alors peut-être redonner la parole à Giuseppe. Au Bondy Blog, il y a un rythme de publication. Il y a des conférences de rédaction.
Comme dans toute rédaction, on a une conférence de rédaction tous les mardis soirs à 19h. Donc c'est à Bondy.
Qui vient comme il veut.
Voilà, c'est ouvert. Tout le monde peut venir. Il suffit d'avoir une idée, un sujet. Et même si on ne sait pas écrire, on peut apprendre sur le tas. C'est vachement formateur.
Si n'importe qui écoute aujourd'hui a envie de participer au Bondy Blog, d'être blogueur et puis de participer à la prochaine conférence de rédaction, il peut y aller.
Voilà, oui.
Elle a lieu quand ?
Tous les mardis à 19h.
Donc rendez-vous...
À Bondy, dans le 93.
Il y a une adresse ?
C'est au siège de l'UAJ. Je n'ai pas l'adresse précise.
Non,
là,
on va sur Bondy Blog.
Allez sur le Bondy Blog, le site du Bondy Blog, vous trouverez tout ça.
D'accord. Et ces conférences de rédaction, c'est plutôt des moments sympathiques, agréables
Alors, la conférence de rédaction, c'est vraiment le rite qu'on se donne, où on est là tous autour d'une table avec un petit truc à boire, des journaux, la presse. National devant nous et voilà, on débat, on discute, on a nos sujets, on se connaît bien.
Et vous avez un nombre de sujets à traiter ou pas du tout? Par semaine, il faut qu'il y ait deux, trois sujets par jour?
Au Bondy Blog, on a une régularité de publication, c'est trois par jour. Ça dépend après les moments dans l'année, pendant les vacances et tout ça, mais généralement c'est trois par jour.
Et papier, vidéo, audio.
Oui, on fait aussi une radio. Donc après, trois sujets. On fait aussi une radio. Donc c'est après chaque conférence de rédaction, on fait un petit débriefing de 10 minutes qui est publié en podcast sur le site du Bondy Blog. On a aussi une émission télé qui passe sur France O et LCP qui s'appelle Bondy Blog Café, où on interpelle des politiques. Donc on a reçu par exemple l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault plusieurs fois, on a eu un peu toute la classe politique actuelle qui sont passées par le Bookdiblog, à part certaines exceptions.
Et puis du coup, vous avez une forme de formation, parce que ça doit quand même être impressionnant quand tu interviews Jean-Marc Ayrault. T'as été à l'aise tout de suite ou...
Jean-Marc Ayrault, oui, bah après c'est... c'est pas moi qui ai interviewé Jean-Marc Ayrault, c'est d'autres blogueurs sur le coup. Mais c'est quelque chose qui... Bah, on est dans un peu dans un lieu qui avec une ambiance qui fait qu'on est concentré, il y a des professionnels, on a surtout des générations aussi de blogueurs, il y a des blogueurs qui sont maintenant qui travaillent à TF1, qui travaillent dans des grandes rédactions.
Puis du coup, c'est facilitant.
Et qui peuvent donner des trucs qui
c'est un peu pareil à Reporters Citoyens, non? Il y a des conférences de rédaction ou comment ça se passe l'alimentation de votre blog?
Alors nous, on a une référente qui s'appelle Sabah Rahmani, que je salue d'ailleurs. Elle est journaliste de base, c'est son métier. Et on se voit tous les... Avant, on se voyait tous les jeudis. Et en plus d'être reporter citoyen, chacun fait un truc à côté, en fait. Par exemple, moi, je suis étudiante en première année d'Infocom à Villetaneuse. Et j'ai d'autres collègues qui font autre chose. Il y en a qui travaillent, il y en a qui... Ils ont une occupation, en fait, à
c'est
côté.
C'est un peu la richesse dont parlait aussi Giuseppe, quoi, qui se passe au Bondiblog. Des gens qui viennent de plein de milieux différents. En même temps, une journaliste qui fédère. Je crois que vous avez un écho. Vous êtes rediffusé sur la télé libre, non? Il y a certaines vidéos qui passent sur la télé libre ou
oui.
Pas du tout?
Oui. Donc, je disais, en fait, quand on a cours à l'EMI, eh ben,
c'est quoi l'EMI, ça?
L'EMI, c'est...
C'est de l'école où vous faites de formation, c'est ça?
Ouais, de formation. D'information. C'est une école de journalisme, en fait.
Vénarde?
Pardon?
Vénarde? D'avoir une formation.
C'est l'abréviation de quoi, EMI?
Oh là, j'ai oublié. École d'information.
Des métiers de l'information.
Ouais, des métiers de l'information.
Le CFD.
Ouais. Et en fait, je disais, en fait, quand on va à l'EMI, en fait, c'est maintenant un jeudi en 15. Quand on va à l'EMI, par exemple, la semaine prochaine, on aura cours à l'EMI. Et c'est Saba qui nous guide, en fait. Et en fait, on voit par rapport à ce qu'on a travaillé avant, quel article on a fait, si on a des articles à boucler. C'est en fonction de ça, en fait, on sait si on va faire un autre article. Et d'habitude, on doit faire un article par mois parce qu'on est, comme j'ai dit, on a d'autres occupations. Mmh. Et voilà. Après, maintenant, pour ça, c'est plus à l'écrit, rédactionnel. Mais maintenant, si on va prendre les bases, par exemple, en vidéo, au niveau radiophonique, on va à la télé libre qui se trouve à Port-de-Vanves. Et c'est une association qui a été créée par John Pound Le Perse, que je salue aussi. Qui, ben lui, nous apprend les bases au niveau vidéo et radio. Bon, il a des bases, mais il préfère plus voir d'autres professionnels plus qualifiés pour nous former. Voilà.
D'accord, bah c'est plutôt intéressant d'être dans ce monde-là, cet environnement-là. J'imagine que même à l'école, vous devez côtoyer aussi des journalistes, ça vous donne des idées de sujets. C'est plutôt intéressant. Vous avez envie de continuer dans des médias citoyens? Qu'est-ce qui vous motive en fait à continuer à contribuer à ces médias? C'est de donner une information un peu différente des médias traditionnels? C'est de participer, comme on disait, d'une certaine façon à la vie de la cité? C'est tout ça à la fois?
C'est participer au débat démocratique.
Et pour toi, Myriam?
Moi, je trouve qu'on... vu qu'on vient de citer, ben on n'est pas discriminé, je trouve. On nous met.
Vous êtes en immersion, comme.
Voilà. On n'est pas. Je sais pas comment expliquer. Je trouve pas les mots, mais.
Vous atterrissez pas d'un coup. Il y a un événement qui se passe et boum. Vous êtes.
En fait, on est traité comme des professionnels. En fait, on apprend le métier. Moi, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre, mais on nous prend comme des professionnels. C'est un plaisir de. Moi, je trouve ça. Moi, ça me plaît beaucoup de me mettre dans la peau d'un vrai journaliste. Vu que je ne suis pas vraiment une journaliste, moi, j'apprends.
Et en même temps, tu as une simplicité des relations avec les gens, parce qu'à la fois, ils savent que tu es en formation.
Oui.
Et en même temps, tu habites dans leur quartier ou tu habites à côté de chez eux.
Par exemple, qui fait la force de l'émission qui s'appelle Bondiblog Café, c'est que. La personnalité politique qu'on va inviter à l'émission, c'est qu'on va pas la revoir après le lendemain soir au bar ou à dîner avec cette personne dans Paris. Cette personne, on ne la connaît pas personnellement, je veux dire, et on va lui parler des vrais sujets, de ce qui nous concerne. de ce qu'on voit.
Et c'est ça qui t'intéresse ?
Oui.
Et parmi les sujets que tu as traités et qui étaient plus intéressants, ce serait c'est lequel ?
Les sujets que j'ai traités, moi, ce que j'ai préféré, c'est...
Bon, c'est parce pas que en... tu traites de tout, en plus. J'ai un peu regardé retraite. Alors, la retraite m'a quand même beaucoup fait rire. Quand on aura la retraite en 2069, effectivement.
C'est ce qui est inquiétant.
Donc, je trouvais ça assez drôle de s'en préoccuper. Tu as fait des articles sur le cinéma, une tribune sur... tu as aussi fait une tribune, c'était quoi ? Mon engagement politique, c'est ça ?
Oui. Ouais.
Mais qu'est-ce qui te plaît le plus ? C'est justement cette diversité de sujets à traiter ? Et Myriam, oui. Tu peux répondre aussi dans la foulée. Mais,
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ces médias citoyens, c'est qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. On peut arriver, on a une idée, on y va. C'est crème. On n'est pas dans des médias institutionnels où on a vraiment quelque chose qui est une information ciblée où on doit aller dans le sens du patron, dans le sens de tout ça. Et il y a plein d'anciens blogueurs qui continuent à publier au bout du blog tout en étant dans des plus grosses rédactions parce qu'ils aiment bien cette liberté de presse et ça leur donne une vraie tribune.
Écoute, c'est une vraie bonne façon de terminer l'émission. Myriam, peut-être si on devait clore, qu'est-ce que tu rajouterais par rapport à la liberté ? Parce qu'on voit que le temps est compté, là. C'est plutôt beau, quoi, de terminer comme ça, après, en plus, ce qui s'est passé un petit peu la semaine dernière.
Moi, je tiens beaucoup, surtout à remercier ceux qui pensent à nous, les personnes de Quartier Sensible, parce que c'est pas toutes les personnes qui sont en haut qui pensent à nous et qui nous font confiance aussi. Donc, moi, je tiens à les remercier. Je peux pas tous les citer, mais ils se reconnaissent. Hein. Donc, moi, je tiens à les remercier parce que c'est un métier qu'on aime, on nous donne la chance, on nous tend le bras. Et moi, je trouve qu'il faut se donner au max pour pouvoir, nous aussi, peut-être par la suite, être à leur place, en fait. Donner la chance à d'autres.
Et pourvu que ça dure, quoi.
Voilà.
Que la liberté d'expression et d'opinion continue à être diffusée sur les ondes, sur les blogs, etc. On redonne peut-être l'adresse de Reporters Citoyens. C'est www.reporter-citoyen.fr et Bondy Blog, et ben on va dire qu'on tape Bondy Blog dans Google et qu'on va retomber dessus, c'est ça ?
Voilà.
Et merci à vous d'avoir participé.
C'est moi qui vous remercie.
On était très contents de vous recevoir. Merci au CIWF.
Merci à vous.
Merci à François. Et on se quitte sur une chanson.
On n'a pas le temps, je crois.
Ah, finalement, on n'a pas le temps, donc on vous dit bonsoir et puis on va laisser la parole à Musique Antille. Bonne soirée, c'était Zoom Écologie. À bientôt. Au revoir, Alexandre. Au revoir, Laurence. On lui fait un petit